Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans.
Par le Père Molinier.
43e séance. Alors, je vais vous dire des choses. Je vous préviens que vous savez par cœur, ou que vous devriez savoir par cœur. Ma seule justification pour les dire étant que précisément vous ne les savez pas du tout par cœur. Je le crains. Alors, on va... Bref, je voudrais mettre en rapport la fête de Noël et ce qu'on appelle la joie de Noël avec quelque chose que vous connaissez bien pour en avoir entendu parler, j'espère pas autrement, c'est-à-dire la drogue. Noël, la joie de Noël étant l'antidote très précis à la drogue. Bon, les drogues, un petit mot sur les drogues, vous savez qu'on distingue les drogues dures et les drogues douces, mais on sait aussi que les drogues douces mènent aux drogues dures, plus ou moins rapidement, plus ou moins infailliblement, pas pour tout le monde, mais enfin, il y a un danger. Et puis, les drogues douces elles-mêmes peuvent devenir des drogues dures. Il y a une drogue qui est en vente parfaitement libre, en France particulièrement, et qui devient facilement une des drogues les plus dures qui soient, dont le tableau final, comme disent les médecins, est aussi catastrophique que celui de l'héroïne, c'est l'alcool. Les alcooliques au dernier degré de l'alcoolisme, c'est pas plus beau, ce sont des épaves aussi horribles, avec des crises aussi spasmodiques, aussi terrifiantes, que les crises de manque des drogués durs. Et cependant, l'alcool est en vente libre. Alors, cette frontière n'étant donc pas tellement facile à préciser, à établir, la question que je pose, et à laquelle je vais donner une réponse extrêmement sommaire, parce qu'il faudrait beaucoup raffiner ce que je vais dire là, mais tout de même, elle a du vrai. Pourquoi est-ce qu'on se drogue? C'est un problème qui tourmente énormément les politiques, les policiers et les médecins. Alors on cherche, en fait. Mais on soupçonne bien que s'il y a un marché de la drogue, s'il y a des fortunes qui s'édifient sur la drogue, et que la police essaie de démanteler, s'il y a des états maladifs dangereux et graves et mortels que les médecins essaient de soigner, c'est qu'il y a un fond psychologique qui explique que les jeunes se droguent. Les jeunes, on pense aux jeunes, parce qu'autrefois, la drogue, ça existait, mais c'était un petit nombre d'adultes riches qui en bénéficiaient. Le fait que les jeunes se jettent sur la drogue est très 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 récent. De mon temps, ça ne l'était pas. C'était pas comme ça. Même l'alcoolisme n'était pas tellement répandu que ça chez les jeunes. Alors, ça, c'est donc un phénomène nouveau. Pourquoi? Alors, on cherche tout ce qu'on voudra. La réponse, moi, je la connais du haut de ma tour. Elle est très simple, c'est parce qu'ils sont malheureux. Voilà. Et un peu désespérés. Malheureux et désespéré d'une façon qui n'est pas forcément consciente, n'est pas obligatoirement obligé de se dire je suis malheureux, je suis désespéré pour être, en fait, obscurément et efficacement malheureux et désespéré. Un désespoir qui n'est pas forcément spectaculaire, justement, qui n'est pas forcément violent, qui peut être... languissant, sournois, je trouve pas, il y a un mot qui m'échappe, des choses qui se traînent, quoi. Voilà, comme un mal qui rampant, voilà. Un désespoir rampant, voilà le mot que je cherchais. Un désespoir manquant, rampant, un malheur rampant, un état de malheur, de pas bien dans sa peau, pas heureux, cafard, s'ennuyer, et finalement être malheureux et désespéré d'une manière rampante, oui. Alors, bon, l'occasion se présentant, elle se présente partout maintenant, même à l'école, on est d'autant plus porté à tenter l'expérience, que le désespoir rampant est plus insidieusement envahissant et l'état où on est malheureux aussi. Bien. Alors, le seul remède en profondeur que je connaisse, ben c'est d'être heureux, évidemment. Évidemment, c'est d'être heureux. Et le seul bonheur que je connaisse, que je puisse vous offrir, c'est le bonheur de Noël. Et justement, qui est un bonheur pauvre, austère. Bonheur de Noël, c'est... Ah oui, j'ai oublié parmi les drogues douces, la télévision. C'est évidemment une drogue douce, c'est une des plus insidieuses et des plus dangereuses qui soit, c'est sûr. Bon, je vous ai parlé de Dirty Dancing, c'est évidemment une drogue. La danse elle-même, qui a toujours existé, qui a affolé le curé d'Ars, qui, déjà, est en un sens aussi une drogue. Bon, on peut en goûter à petite dose, c'est pas trop grave, à grande dose, c'est comme toutes les drogues, dès qu'on y va à forte dose, ça devient dangereux. Bien. Alors, la télé, bien sûr. Alors, justement, à Nazareth, à Noël, il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de dirty dancing, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de tabac, il n'y a pas de drogue, quoi. Noël, c'est un monde où on est heureux et où il n'y a pas de drogue. Et c'est ça qu'il faut un petit peu méditer quand on va à la crèche. On va dire, ces gens-là sont heureux et ils n'ont pas de drogue. Je connais quelqu'un qui me disait, pourquoi je ne fumerais pas, il n'y a pas de péché. Comme c'était quelqu'un de récemment converti, je lui ai dit, mais... est-ce que tu penses que la Sainte Vierge fumerait? Ça suffit. Elle a réalisé justement qu'à Noël, on ne fume pas. Enfin, à la crèche, on ne fume pas. On ne voit pas Saint-Joseph fumant. Il resterait de mettre le feu, d'ailleurs. Enfin, ça, c'est un petit détail. Non, on voit mal, enfin, Saint-Joseph installé dans un rocking chair, en train de fumer sa bouffarde, hein, auprès de l'enfant Jésus. Gentil, la bonne Sainte Famille. Bon, ben, on ne voit pas ça. On sent bien que ce n'est pas ça. Pas forcément un péché, ben non, pas forcément un péché, pas une question de péché. Justement, l'avantage de méditer sur Noël, c'est que on va évacuer ces notions de péché, de culpabilité, de vertu, de perfection, d'être en faute, d'avoir un temps réparé. Non, on va regarder des gens qui sont heureux d'une manière extrêmement mystérieuse. Et il faut sentir qu'ils sont heureux. Ah, voilà. Il faut le sentir. Ils sont heureux et ils sont simples et ils n'ont rien. Justement, de ces drogues qui nous aident à supporter l'existence et à dire qu'on est heureux ou moins malheureux. Mais en fait, c'est justement parce qu'on est malheureux qu'on a besoin de ces drogues. Eux, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils sont heureux. Et alors, ils vivent dans la pauvreté, dans la sobriété, ils ne meurent pas de faim. C'est pas la grande misère. C'est pas la misère de l'Inde, des pays sous-développés. Dans Catherine Emmerich, Jésus... raconte que sa mère savait faire de bons gâteaux, enfin, c'est pas le problème, simplement c'était pas des drogues. Voilà. Il faisait des repas dans une joie simple, discrète, silencieuse. Là aussi, la musique n'était pas ignorée, mais quelle musique, n'est-ce pas? Voilà, il y a musique et musique. Là, c'est pas une question de vertu, on sent bien la différence entre une musique pauvre, ce qui n'est pas une drogue, et puis une musique qui est une drogue. Bien. La musique du grégorien, la musique la liturgie orthodoxe, même la musique de Bach, ou même la musique de Mozart, ou même la musique classique, bon, ça peut devenir une drogue, ça aussi, pour certains, mais au départ, ça n'est pas une, et c'est compatible avec la crèche. On peut chanter les Noëls avec Mozart, et avec Bach, et avec... et même avec les Gospels, ou les héros spirituels, ça peut être, à condition justement que ça ne sorte pas de cet état, que je vais essayer de vous définir, de cet état d'adoration heureuse et simple et pauvre et paisible, de cette paix et de cette joie. Alors, je voudrais vous donner une précision supplémentaire sur cette joie de Noël en vous disant, attention, ce n'est pas la joie pascale. Et c'est là où je vais vous dire des choses que vous savez par cœur et que vous savez pas. La joie pascale, elle n'est pas à notre portée. La joie pascale, vous ne la connaissez pas. Et moi, est-ce que je la connais? J'ai peur que non. La joie de Noël, nous devrions la connaître. Pourquoi? Bien, ma première idée, c'était de comparer ça à une maladie pendant la période d'incubation. Et les maladies infectieuses, comme la grippe, il y a une période d'incubation. On n'est pas malade, mais on a le microbe, on incube. Ça peut durer, ça dure quelques jours. Il y a des maladies, comme le tétanos, par exemple, qui est une maladie terriblement grave et mortelle. L'incubation peut durer 30 jours. Ça peut être plus ou moins long. Bien. Alors, je dirais, il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Dieu, et dont parle le Christ. Il dit, cette maladie ne mène pas à la mort, elle mène au ciel. Mais pour aller au ciel, il faut être un petit peu malade de Dieu. Il faut un peu avoir soif de Dieu, et ça rend un peu malade. On est malade de désir, on est malade de langueur, mais une bonne langueur, une langueur tonique. Et c'est la langueur de Jérusalem, des Juifs qui gémissaient après Jérusalem, justement. Quand est-ce que je serai auprès de toi, Jérusalem ? La langueur de ceux qui sont en exil, parce qu'ils sont loin de Dieu, loin du ciel, loin de la Sainte Vierge, loin du Christ. Ils sont tout près, mais en même temps, ils sont loin, c'est pas encore... ils sont loin de ceux qu'ils ont perdus, qui sont déjà partis dans au ciel. Ils sont loin, puis en même temps, ils sont prêts par l'amour et la prière, mais enfin... vivre ça, c'est connaître une certaine maladie. Une bonne maladie. La bonne maladie. Alors, à cette maladie, on peut appliquer les mêmes principes qu'à toute maladie. Il faut un virus, il faut un microbe. Et le microbe, c'est ce que votre catéchiste habituel vous répète inlassablement aux uns et aux autres, et c'est pour ça que je dis vous savez tout ça par cœur, c'est un germe. C'est un virus, c'est le virus trinitaire, c'est ça. Alors, on attrape le virus ou on n'attrape pas le virus. On a le virus ou on ne l'a pas. Et alors, à ce moment-là, si on est en état de grâce, ce qui est justement avoir le virus, alors il ne se passe rien du tout, apparemment. Exactement comme quelqu'un qui incube une maladie, il ne se passe rien du tout. Il ne sent rien. Mais on est habité, sans le savoir, et c'est la période d'incubation. Et c'est ça que j'appelle la joie de Noël, à partir du moment où on le sait. Une femme qui attend un enfant depuis 10 ans, par exemple, parce qu'elle est stérile, et puis qui apprend que ça y est, elle est enceinte. Bon, à part si, ce que lui disent les médecins, elle ne sait rien, elle ne sent rien, elle ne sent pas du tout son enfant au début. Elle est comme avant. Mais elle se sait habitée par quelqu'un. Alors là, oui, par quelqu'un. Eh bien, cette période d'incubation que j'appelle la joie de Noël consiste à se savoir et à se sentir plus ou moins habité par quelqu'un, par trois personnes, et puis par Jésus, et puis par Marie, et puis bon, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, spécialement le Saint-Esprit, et puis Jésus, et puis Marie. On se sent ou on se sait, et on se sent quelquefois habité. C'est la période d'incubation, c'est la joie de Noël. Et la joie pascale, c'est quand la maladie se déclare. Alors là, c'est une toute autre paire de manches. C'est une explosion qui est quelquefois très douloureuse, comme toutes les maladies, mais qui est magnifique quand il s'agit de la maladie de Dieu. Nous n'en parlerons pas trop. Mais je vous offre une autre comparaison pour renforcer celle-là, et ce sera ma seule trouvaille de ce matin, ma seule nouveauté. Parce que cette comparaison incubation, le virus qui incube et puis qui, la maladie qui se déclare, j'ai découvert qu'aujourd'hui, il y a parmi les fléaux qui s'abattent sur le monde, il y en a un qui est encore plus éloquent pour expliquer ce que je crois être la joie de Noël, et c'est le sida. Alors ça, vous avez tous entendu parler du sida, bien entendu. Et vous savez que, vous savez, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, hein, je ne suis pas un médecin, hein. Je vous dis ce que j'ai lu dans les journaux très grossièrement. Bon. Avant d'avoir le sida, on est séropositif. Et on peut être séropositif pendant des années, sans que le sida se déclare. Voilà. Alors là, c'est la comparaison merveilleuse que je trouve pour la joie de Noël. La joie de Noël, ça consiste à être séropositif de la maladie de Dieu, de la joie de Dieu. On est habité par le virus, séropositif. Mais on peut se porter comme les autres, vivre comme les autres, pendant des années. Quand il ne se passe rien, le sida ne se déclare pas, c'est-à-dire la gloire de Dieu n'explose pas dans le cœur, ce qui fait les saints. Ça, c'est la joie pascale. La joie pascale, c'est le sida. La joie de Noël, c'est séropositif. Bon, alors, il y a une différence apparente avec... parce que les comparaisons sont toujours boiteuses. Alors vous pouvez me dire, ben oui, mais séropositif, quand on l'est pour toujours, on ne peut pas, ça ne peut pas changer. Tandis que, quand on est séropositif de Dieu, de la joie de Noël, on peut la perdre par le péché mortel. Eh bien, c'est vrai, la comparaison est boiteuse, mais elle n'est pas si boiteuse que ça, parce que les médecins cherchent, et je suis convaincu, pour ma part, j'ai de solides raisons de penser, je ne suis pas le seul, que dans la nature, il y a des millions, peut-être des milliards, certainement des millions, des centaines de millions d'espèces de plantes, dont on connaît très très peu. Quand on a découvert justement la pénicilline, c'est encore un champignon, on a découvert, c'est une plante. Et le secret des plantes, nous ne le connaissons pas. Nos premiers parents le connaissaient, ils en savaient ce qu'il fallait en connaître. Mais quand les médecins découvrent une plante qui guérit, et les sorciers dans les pays sauvages connaissent quelquefois des plantes que l'Occident ne connaît pas. Et si on connaissait donc toutes les plantes, à mon avis, on aurait immédiatement la guérison du sida. Je suis sûr que ça existe. Mais c'est bon, on ne sait pas. On a perdu le secret des plantes. Donc il ne faut pas croire que séropositif, c'est définitif. Les médecins s'acharnent pour essayer justement de trouver la guérison, le vaccin. Et ils ne désespèrent pas complètement. Simplement, pour le moment, on n'en voit pas. Alors on a l'impression que c'est définitif. Mais ça ne le sera pas toujours. Je l'espère pour le genre humain. Seulement, il y aura une autre maladie à la place. Alors... le cancer, on a eu peur, on n'a pas trouvé la solution. La tuberculose, on a trouvé... Bref. C'est un détail. Mais c'est vrai que séropositif de Dieu, si c'est là où, malgré tout, il faut tout de même respecter une certaine morale. Oui, c'est vrai. Il faut se méfier des toxines, il faut se méfier des drogues. Les drogues, en particulier, mènent facilement au péché mortel. Et alors là, on cesse d'être séropositif de Dieu. On perd la joie de Noël. Mais si on veille à la garder, alors c'est extrêmement solide, c'est extrêmement stable, c'est extrêmement profond. Et je vous le répète, ce n'est pas la joie de Pâques. Mais, vous avez peut-être entendu parler de ce qui se passe quand quelqu'un découvre qu'il est séropositif. Quel drame ça représente. On lui dit, mais vous n'avez pas le sida, vous pouvez espérer vivre encore pendant des années sans avoir le sida. Oui, mais enfin, il est séropositif, c'est terrible. Et puis ça se transmet. C'est contagieux. Pas contagieux, non, c'est transmissible. Bien, passons. Mais psychologiquement, c'est un drame épouvantable que d'apprendre qu'on est séropositif. C'est quelque chose de très grave. Eh bien, savoir que vous êtes séropositif de Dieu devrait pour vous être la source d'une joie aussi formidable que c'est terrible d'apprendre qu'on est séropositif du sida. Vous voyez ? C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous êtes séropositif. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes séropositif de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais profitez-en. Gâchez pas ça, attention, vous pouvez le perdre. Ah, voilà, c'est beaucoup plus fragile que séropositif tout court pour le moment. Bon. Ça, c'est à soigner avec amour. Et c'est pour ça que prier à la crèche, c'est ça, c'est contempler des séropositifs de Dieu, ceux qui sont habités par cette maladie qui n'explose pas encore. Elle explosera à Pâques. Alors là, oui, alors là, c'est tout un ramdam. Alors là, la joie pascale, alors là, n'en parlons pas. Mais la joie de Noël, c'est calme, c'est doux, c'est humble, c'est simple, c'est humain. C'est à l'échelle humaine. Ça n'élimine que les drogues. Tout ce qui est humain est nôtre dans la joie de Noël. Tout ce qui est humain est accueillant et accueilli dans la joie de Noël, sauf les drogues, qu'on peut accueillir à petite dose et avec beaucoup de prudence. Mais parce que, alors là, non. Et on n'en a pas besoin puisqu'on a la joie de Noël. Alors, contemplez ça. La crèche ne va pas s'en aller des églises avant, en principe, ou de vos foyers avant la fin du mois de janvier. Alors, priez dans ce sens et remerciez d'être séropositif et demandez la grâce de le rester.